I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bienvenue dans À Poil. Je sais, le nom peut porter à confusion, mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À Poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin. Des cuisiniers et cuisinières plurielles qui marquent notre époque. Au cours de cette première saison, nous allons explorer les nombreuses facettes de ce métier devenu glamour avec une variété de personnalités du monde de la gastronomie, des toques de cantines d'auteurs, de grands restaurants ou de tables d'hôtes cachées. Quel genre de chefs sont-ils? Ont-ils la création facile? Qu'est-ce que représente la cuisine pour eux? Dans ce deuxième épisode d'À Poil, je suis ravie de recevoir Céline Pham.
C'est ma façon de m'exprimer. J'exprime ma bienveillance et mon amour et mon affection à travers la cuisine, je pense. C'est ces moments précieux, ces moments uniques où tu as des découvertes, des choses, ça te fait quelque chose, ça te fait quelque chose dans le ventre, c'est physique, ça nourrit l'esprit, c'est assez magique. Quoi.
Alors, pourquoi Céline ? C'était important et évident de recevoir une femme, qui plus est quand elle s'appelle femme dans ce deuxième épisode d'À Poil. De plus, avant d'adorer sa cuisine, j'ai d'abord été séduite par le personnage, spontané et sincère. Un jour, c'était après une rupture amoureuse, Céline m'a confié ne pas avoir cuisiné pendant des semaines. Elle n'y arrivait plus, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Avec Céline, nous avons donc parlé de cuisine et de sentiments, de sorbet au lait de coco, et de la difficulté d'être une femme dans un milieu d'hommes. Et je suis sûre que vous aussi, vous allez la trouver émouvante dans sa démarche. Bonne écoute! Bonjour Céline.
Bonjour Julie.
Est-ce que la cuisine est pour toi liée au sentiment? Est-ce que tu as besoin d'être dans un bon mood pour cuisiner?
J'étais un peu terrassée par une rupture amoureuse. Ça m'a pris presque un an avant d'être satisfaite de ce que je fais à manger et de reprendre plaisir à manger. Donc je pense que les deux sont étroitement liés. Il faut être dans un bon mood pour... parce que c'est un métier où tu offres aux gens un peu de toi et de... Donc c'est clair que l'humeur influe sur ta cuisine.
Tu as commencé ta vie professionnelle par la médiation culturelle et la musique.
Oui. C'était un terme très vaste à l'époque, j'ai pris ce cursus à la fac.
Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire la cuisine?
Alors à ce moment-là, donc j'étais dans l'industrie du disque, on est en 2008, il y a comme une mutation avec l'arrivée, c'était déjà installé, mais... Le numérique qui mangeait un peu plus, qui gagnait du terrain. J'ai eu un événement personnel qui j'ai perdu ma grand-mère à ce moment-là. Je sais pas si c'est directement lié, mais c'était son métier à la base. Je pense aujourd'hui que pouvoir dire que j'ai voulu lui rendre hommage et que je voulais à ce moment-là faire quelque chose de manuel, enfin faire quelque chose de mes mains. Car la vie de bureau m'ennuyait un peu, on va dire ça.
Et pourquoi la cuisine alors?
Pour la cuisine parce que j'ai grandi dans une famille où le manger était central. Tout était prétexte à fêter, à manger, à célébrer, à se réunir. Et une famille très 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 gourmande. C'est tout un truc de planète alignée à ce moment-là qui a fait que je rentrais très vite... à Ferrandi après cette décision, mais que par avant je faisais le week-end, je travaillais dans un restaurant en tant que plongeuse commis avec un être exceptionnel, mon premier chef qui s'appelle Yuri, et lui m'a ouverte vraiment, il bossait à l'arpège avant et il m'a ouverte sur un monde, j'étais vraiment 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 en admiration de cet être.
Et justement, pourquoi t'as choisi de faire une école et pas continuer à bosser dans un restaurant pour...
Et ben justement, c'est ses amis qui m'ont dit, qui eux avaient tous à peu près fait une école, etc., qui m'ont dit, écoute, on est au début, on te conseille d'avoir un cadre. Mon frère, par ailleurs, connaissait Francis, qui avait fait l'école, donc il m'avait convié aux portes ouvertes. Et vraiment, c'est un truc de date. C'est arrivé, je suis allée aux portes ouvertes, dans la foulée, et j'ai passé les entretiens, et j'ai commencé l'école. J'ai commencé l'école tout en restant en apprentissage avec Yuri, qui lui, après, à l'époque, bossait dans un bistrot du 6e, le Prévert. Et c'est là que j'ai retrouvé. Donc, j'étais 50% du temps en entreprise, voire 70%, parce que je séchais pas mal pour aller en entreprise.
Donc, tu avais choisi le bon domaine.
Je m'y suis jetée, je pense, en pensant que j'avais pas de temps à perdre du fait de la formation précédente, d'avoir déjà eu une vie, on va dire, entre guillemets, dans la musique avant. Et du coup, là, je ne comptais pas les heures et j'étais ravie d'éplucher. Je me mettais des chronomètres dans les sous-sols avec 15 kilos de patates, 15 kilos d'artichauts, 15 kilos d'oignons le matin. Et pour moi, il fallait apprendre à aller plus vite, toujours plus vite. Et je le faisais sans compter les heures.
Quel souvenir gardes-tu de tes premières expériences ?
Dans quel domaine ?
Dans la gastronomie.
Mes premières expériences, bon, alors du coup, on remonte à Yuri, dont je te parlais précédemment. Et là, je te dis beaucoup d'admiration. C'était à l'époque un restaurant sans gluten. On est 9 ans en arrière. Ma première approche, c'est. Je me souviens, le premier jour, c'était des salsifis. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était plein de terre. Je comprenais pas. Ça, tu épluchais le truc, ça oxydait. Enfin, c'était quand même très particulier. Et puis, donc, je découvre des légumes, enfin tout un nouveau monde quoi, et puis ce personnage comme je te dis qui est californien, moitié japonais, qui cuisine comme un dieu, qui ressemble à un dieu, enfin j'étais vraiment subjuguée. Et là dans ce restaurant, il déconstruisait un peu toutes les recettes pour pallier au fait qu'il n'y ait pas de gluten du tout dans aucune des recettes. Et donc, c'était assez scientifique pour moi, des super découvertes de toutes les types de farines différentes, etc. Donc, c'était sur du pain, des pâtes, etc. C'était vraiment beaucoup d'admiration sur tout ce qui était, tous les champs des possibles à ce moment-là.
Et justement, est-ce qu'il y a des chefs que tu admirais à tes débuts ?
Dans les postes que j'ai occupés, les restaurants que j'ai traversés, j'ai été souvent en admiration pour mes chefs. Je pense qu'il y a un exemple où vraiment j'ai été subjuguée et là je me suis dit c'est la bosse et je suis vraiment soufflée. C'est un jour, un événement, Tatiana Leva, qui est le servant avec sa sœur, et là je vois Tatiana prendre en main les cuissons et je sais pas, en la regardant, elle maîtrisait tellement le sujet que j'étais vraiment là pour le coup un peu assez soufflée, impressionnée. Je découvrais, j'allais manger pas mal et j'étais dans l'assiette sans forcément connaître le nom des chefs, etc., ou l'histoire des chefs, ou parler aux chefs, etc. J'étais dans l'assiette très admirative de tout ce qui se passait. Je pourrais te citer Aline Grattard, où j'étais subjuguée par les associations. Toyo aussi à l'époque, je me rappelle, l'assiette, enfin une tomate confite m'avait. Un pickle de tomate m'avait un peu soufflé. Et là, c'était sans mettre vraiment des noms, etc. Mais c'était plus la démarche d'être renversée par l'assiette, le service.
Le Prévert, The Kitchen Gallery, Saturne, Septime, chez Aline. Quelle est l'expérience qui t'a le plus marquée ?
Ça, en fait, c'est une liste très éclectique. Ça m'a marqué à des niveaux différents et puis surtout c'est arrivé à des moments où je sais pas où tu commences et t'as pas du tout confiance, ou t'as un peu plus ou trop de confiance, ou je sais pas, enfin c'est pas, toutes les expériences ont tellement été différentes, elles m'ont toutes marqué à leur échelle. Je saurais pas en faire sortir une du lot, en fait elles constituent qui je suis aujourd'hui. Ils traduisent aussi quelque chose qui est que j'ai un peu la bougeotte. Et qui m'ont tous apporté quelque chose et construit, c'est plein d'expériences qui m'ont traversé, quoi.
Tu devances un peu ma question suivante.
Je suis libre dans tes pensées.
Oui. j'allais te demander justement si tu avais peur de l'engagement, parce que tu as fait des résidences de chef de quelques mois à quelques semaines, la dernière chez Fulgurance. Mmh. T'exerces ton métier de façon libre et indépendante.
La Fulgurance, quelque part, c'était un engagement de 6 mois. Et...
un engagement non, un peu court, non, court pour un chef, finalement, non, parce que tu as choisi de ne pas avoir de restaurant au sens classique du terme.
Je dirais pas que j'ai pas de l'engagement. Je me suis mariée à 24 ans. Enfin, j'ai cette idée de l'amour absolu, etc. De l'engagement, peut-être la peur à l'inverse, la peur de la... Puis c'est même pas des routines si contraignantes, parce que tu vois des produits évoluer, etc. Mais je pense, voilà, à l'inverse, je suis très curieuse et très demandeuse de nouvelles choses. Et comme je te dis, j'ai la bougeotte pas mal. Et c'est plus un attrait d'autre chose, plutôt que la peur de l'engagement. Je m'engage très bien, et je suis très fidèle en amitié, en amour, etc. Et c'est juste, c'est vrai que j'ai du mal à m'installer, parce que je regarde toujours à côté, quoi.
Tu n'as pas si peur que ça, parce que tu as ouvert chez elle, chez toi.
Ouais, j'ai ouvert ce projet. Ouais. En fait. Comment est né le projet, c'est un quasi hasard aussi. C'est la fin de Fulgurance. C'est même pas la fin de Fulgurance. Je dis des bêtises. En fait, c'est pendant Fulgurance. Je tombe sur cet appartement. On voit un potentiel fou. J'ai envie de m'approprier le lieu. J'ai envie de faire travailler. Les copains que j'ai pas vus pendant des années, parce que j'étais un peu tête dans le guidon. Donc une copine qui collectionne des images, une copine qui décore, qui chine, des copines photographes, tout un cercle d'amis où j'ai l'impression qu'on peut habiller, créer un lieu, créer une atmosphère où on peut se réunir déjà à la base. Et puis pourquoi pas organiser des dîners avec des gens d'horizons différents et faire des choses... un peu unique, hein, dans un lieu unique, et en plus, quoi de plus intime qu'un endroit qui est habité par moi. Donc voilà, j'ai eu cette envie d'ouvrir un peu chez moi et de le décorer à la virgule près, comme je l'entendais et comme je m'y sentais bien.
Et pourquoi pas un restaurant? Vrai restaurant?
Parce que je suis pas... J'ai voulu quelque chose d'unique. J'ai peut-être eu peur, après l'expérience Fulgurance, de quelque chose à grande échelle, entre guillemets. J'ai voulu un truc un peu intime. J'étais assez refroidie par toute cette logistique de commandes, etc. De commandes qui n'arrivent pas, de commandes qui arrivent, des commandes... erroné ou il faut toujours reposer sur quelqu'un ou même moi une certaine rigueur du quotidien sur un volume. Je sais pas, que je suis beaucoup plus à l'aise là avec 8-6 personnes devant moi. Voilà, peut-être la peur de aussi le recrutement. J'ai eu un peu de peine au début de Fulgurance à trouver des équipes, parce que c'était un moment où ça changeait d'équipe. Et j'étais assez déstabilisée sur le fait de devoir solliciter tous les copains à travailler avec moi en extra, parce qu'on peinait à trouver du personnel. Alors peut-être que je me suis dit, sur un restaurant, comment faire sur mon restaurant. Donc voilà, après, l'idée du restaurant, elle reste dans un coin de la tête. J'ai ce rêve d'être au Pays Basque, sur une montagne, près de la mer ou ailleurs, et d'ouvrir un restaurant un jour.
C'était aussi ouvrir ton restaurant chez toi, enfin, ta table chez toi. C'est une façon de retrouver...
On peut pas vraiment appeler ça un restaurant, finalement. Non. Parce que c'est pas au quotidien, c'est pas le même, c'est pas aussi lourd. Ça reste de l'ordre de l'événementiel, je pense.
Ta table, on va dire.
Ouais, ma table, ouais.
C'est une façon de retrouver de l'amicalité et de la proximité avec les clients aussi, c'est important?
Ça, je l'ai eu souvent, parce que j'ai travaillé dans des cuisines ouvertes, enfin table ronde. Ce concept, c'était vraiment 16 personnes qui t'entouraient vraiment. J'ai adoré. À Fulgurant, c'est pareil, c'était un bar, enfin, tous les gens pouvaient me parler, j'étais très 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 accessible. C'est pas nécessairement. Ça, c'était vraiment créer des choses qui ne se font, qui existent qu'une fois, et qui mutent et qui ne se ressemblent.
Donc, on va passer à l'interview aller-retour, c'est une interview dans l'interview.
D'accord.
Tu vas devoir répondre du tac au tac.
Ah non, d'accord, ok.
Ton âge?
30 ans, à peine, fraîchement.
Ton signe astrologique?
Scorpion.
Ton plat signature?
Le feu, je pense.
Ouais. Ton plat préféré?
Joker, il y en a trop pour que je puisse en isoler qu'un seul.
Le chef que tu admires le plus?
J'ai le droit à deux jokers?
Non.
Non, le chef que j'admire le plus, c'est ma grand-mère.
Ton ingrédient préféré?
Je pense que c'est le riz sous toutes ses formes. J'aime le cuisiner comme autant que le manger. Ça, c'est beaucoup.
Ton ingrédient détesté?
J'en ai pas nécessairement. J'ai juste l'ananas, je le déteste pas. J'aimerais l'aimer. Mais quand j'en mange, je sue du nez.
Voilà. Ton ustensile fétiche?
Mon ustensile fétiche, j'ai une poêle danoise que j'adore, qui appartenait à ma grand-mère, avec lesquelles je fais les banh croc, qui sont une spécialité vietnamienne, des petites crêpes. Et c'est très lourd et je l'adore.
Ton dernier meilleur repas?
Mon dernier meilleur repas, mes 30 ans, donc c'était pas si longtemps que ça, c'était chez Septime.
Le resto que tu aurais aimé ouvrir?
Le resto que j'aimerais ouvrir, je reformule ta question parce que j'ai pas. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent et j'ai pas forcément nécessairement. Enfin, je trouve qu'elles sont bien comme elles sont, etc. J'aimerais ouvrir une rôtisserie de légumes. Voilà. Je lance un appel parce que j'ai vraiment envie de l'ouvrir. J'imagine ça un peu comme une boucherie. Mais à la place des poulets qui tournent, des légumes entiers qui rôtissent et qui finissent. Si pas vendu en purée, en des fruits en confiture, etc. Un lieu un peu autour du légume.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
On m'a dit un jour, c'était presque aussi bon que ma mère. Et ça, c'est le meilleur des compliments. C'était sur une langoustine, non, des écrevisses à l'armoricaine. Que j'ai ouvert mon livre, Le Mince en Morel, et j'ai regardé la recette, et j'ai essayé de faire la recette de grand-mère de famille. Voilà, et à la fin, mon ancien beau-père m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup touchée.
Et la pire critique?
La pire critique, souvent je les oublie parce que je suis très susceptible en plus, alors ça me blesse, mais j'essaye de les faire partir. Je pense que je ne sais pas en fait, mais j'en ai eu, hein, j'en ai pris des petits, j'ai pris des bons taquets. Hein. Peut-être que ça venait plus d'un chef que je respecte ou quoi, mais en tant que cuisinière, genre ce que t'as fait à manger là au personnel, c'est dégueulasse ou ça touche vraiment, ça touche profondément et ou des petites remarques comme ça, des petites critiques de t'as mal fait ci, mal fait ça. Et après, quand on ressale un plat, etc., des fois, vu mon taux de susceptibilité, des fois je prends un peu mal, mais j'oublie.
Bon, c'est fini l'interview dans l'interview.
Ok, très bien.
Tes plats expriment à la fois tes racines vietnamiennes et ta formation à la gastronomie française. Est-ce que c'était évident de trouver ton style?
Ça c'est une question. En fait, ça se pose à un moment de ta vie. Tu arrêtes de travailler pour les autres, tu défends ta cuisine. Tu regardes un peu dans les inspirations. Enfin là, ça a été une évidence de par la famille dans laquelle j'ai grandi. Si gourmande, etc. Ça devait se jouer à ce niveau-là, quoi, au niveau des origines, de la famille, etc. Je vais pas aller chercher très loin. C'était là. C'était plein de souvenirs et plein de choses que j'ai voulu recréer. Plein de voyages aussi, de souvenirs de voyages en famille, que ce soit dans les Antilles, au Vietnam. etc. On faisait des food tours avec mes parents et mes deux frères. Je pense qu'il y a sur un marché, il n'y a pas un plat qui nous échappe, quoi. C'est, on a tout goûté. Et on marche tout le temps. C'est quel sera notre prochain repas? Quel sera, enfin, c'est toujours tout tourne autour de ça. Donc voilà. Donc ça a été très facile de piocher. Et puis c'est un puits sans fond. Il y a du potentiel là. On est sur de, je sais pas, comme moi j'ai un souvenir très jeune d'une glace aux Antilles. Ces dames sur la plage qui, en fait, sur un bloc de glace, foisonnent à la main une préparation à base de lait de coco. Elles y ajoutent des épices et puis elles tournent. Et là, je passe et j'étais très jeune et je dis, mais est-ce que je peux goûter? Elle me dit, reviens. Et ça a duré des heures, quoi. Mais t'imagines, toi, une surbotière manuelle. Enfin, et alors, quand ça a été enfin prêt, la préparation, la glace, quoi. Et que j'avais sur cette plage ce cornet de glace, lait de coco, et que j'ai mis ma cuillère dedans. Enfin, c'était la folie, quoi, la texture. Enfin, j'étais contente d'avoir entendu ça. Et ben là, écho, c'est une glace que j'essaie de recréer sur un dessert. Un dessert à fulgurance, où j'avais ce sorbet à la noix de coco sur... Enfin, pour moi, la coco au Vietnam, ça évoque aussi un dessert à la banane. Et du coup, j'étais partie sur une tatin de banane avec cette glace coco. Mais c'est, du coup, c'est pas que vietnamien. C'est en fait un rebond de voyage et de souvenirs et d'enfance.
Plein d'influences.
Il n'y a pas de limite, en fait.
Et est-ce que tu as la création facile?
J'ai l'impulsion facile, c'est pas, enfin non, je, enfin ou, enfin je sais pas, je saurais pas te répondre. Là. J'ai pas peur d'essayer des choses. Après j'ai plus des limites de ben là en l'occurrence de temps et ça. Enfin, je vais vraiment à l'essentiel, à ce que je sais faire. Quand j'ai plus de temps. Bah là, je peux être. Je peux plus m'essayer. Enfin, en tout cas, j'ai pas peur de la création. Après, à l'appliquer, je vais pas te dire que tous les matins j'écris une recette et. C'est faux, c'est un mensonge. Mais je suis contente quand j'ai des idées.
Est-ce que tu cuisines ce que tu aimes manger?
Oui. Je ne. Pas... Et des fois, je cuisine ce que je n'aime pas manger. Enfin, en réalité, il n'y a pas vraiment grand chose que je n'aime pas manger, mais. Je veux dire, un truc, en ce moment, je mange plus de légumes, je mange beaucoup moins de viande, etc. C'est pas que je n'aime pas, mais j'en cuisine, j'ai envie de faire plaisir aux gens, et si mes clients sont carnivores, ben, je vais faire de la viande. Donc, enfin, en gros, il y a ce truc avec ce lieu, c'est que je suis très à l'écoute c'est une question que je pose, est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose de marquant culinairement, que vous aimeriez retrouver? Et j'essaie de m'en approcher.
Qu'est-ce que signifie la cuisine pour toi?
Bah, c'est très beau ce que je veux dire, c'est ma vie. Non, c'est ma façon de m'exprimer. J'exprime ma bienveillance et mon amour et mon affection à travers la cuisine, je pense. Voilà, j'y mets beaucoup de sentiments et j'y ai mis beaucoup trop de sentiments parfois. Et, là, j'essaie de modérer. Et la cuisine, oui, ça représente tout. Enfin, c'est ces moments précieux, ces moments uniques où tu as des découvertes, des choses, ça te fait quelque chose, ça te fait quelque chose dans le ventre, c'est physique, ça nourrit l'esprit, c'est magique, quoi.
Justement, j'allais te demander, qu'est-ce que tu cherches avec ta cuisine? Est-ce que c'est nourrir, surprendre, séduire, voyager?
Voilà, oui. Bah ouais, non, à peu près tout ça. Tout, hein, tout avec un point un peu plus fort sur... les voyages et découvrir, en fait, découvrir des nouvelles choses, découvrir des marchés, etc. Surprendre, ben non, j'en ai pas toujours la prétention, enfin, c'est difficile, mais j'essaye. Et puis, enfin, tout me paraissait juste dans ta liste, mais ouais, ça, c'est un moyen de s'exprimer, ouais, où tu cherches pas mal de choses. Il y a des choses, des fois, que je n'arrive pas à verbaliser. Je suis un peu handicapée de la parole parfois et je vais l'exprimer différemment, quoi. Voilà. Enfin, différemment en cuisinant.
Est-ce que tu as des modèles ou des sources d'inspiration dans la vie et dans ta cuisine?
Alors justement, là, ça s'ouvre, le spectre s'ouvre. C'est pas que des gens qui sont en cuisine. C'est pas que la famille aussi, parce que j'ai beaucoup été très inspirée par ma mère, ma grand-mère, tout le temps. Là, je fais de plus en plus de rencontres, de par ce lieu aussi, sur des écrivains, des chanteurs, et moi, c'est hyper important pour moi. Ça me nourrit et ça m'ouvre à des choses, et ça me plaît beaucoup. Parce que souvent, c'est la chose récurrente, c'est que ce sont des femmes, et des femmes assez fortes, et que j'admire. Et j'arrive à échanger, parce que la cuisine, c'est un très bon aussi moyen d'échanger. C'est un bon point de départ, quand même. Tout le monde mange, tout le monde. J'arrive à échanger très facilement. J'ai pas ce complexe de. J'arrive à parler, en fait. Parler de tout et de rien, mais aussi de la cuisine et d'autres choses. Et là, ça me move, ça me revient, c'est la boucle finalement à la musique, etc. À la culture, hein, de manière générale. Et voilà, ça me plaît. Donc oui, il y a beaucoup de femmes très fortes qui m'inspirent. Mais comme tu me disais tout à l'heure, chez Aline, Delphine Zampetti, elle m'a vraiment inspirée. Quoi. Ce rôle de mère, cette boutique qu'elle tient, j'ai beaucoup admiré. C'est un modèle. Voilà, ça peut être... Mais c'est dans des métiers maintenant de plus en plus différents que uniquement la cuisine.
Quel est le plat dont tu es le plus fière ?
Je pense qu'il n'y a pas un plat, mais un repas dans lequel j'étais très très fière. En fait, mes parents sont venus dans les restaurants dans lesquels j'ai travaillé. Ils m'ont toujours dit, en fait, on prend pas de plaisir parce qu'on nous voit bûcher. T'es pas à table avec nous et on est assez malheureux et on n'arrive pas à avoir, enfin c'est pour ça que c'était dans des super restaurants, nous on se saignait derrière, on n'arrive pas à profiter un maximum, etc. Mais un jour, table ronde, mes deux parents sont là, m'embarrasse un peu parce que table ronde c'est une cuisine ouverte, c'est ce qu'on vit, dont mes deux parents avec iPad à prendre des photos de moi, à me parler, à m'interpeller, etc. J'étais assez gênée, etc. Et puis là, en fait, j'étais dans mon truc, donc j'en fais à manger. C'est la première fois que j'étais en mon nom à leur faire à manger. Et j'y suis allée un peu fort pour eux. J'étais sur du homard, des produits nobles, etc. Ça m'a vraiment... J'ai adoré leur faire à manger à ce moment-là. Et puis pour une fois, c'était pas... t'étais pas assise avec nous à table. Mais le message que j'ai reçu ce soir-là, c'était... Il était court, c'était le plus beau repas de notre vie. Et là, j'étais fière. Là, enfin, franchement, sur l'échelle de la fierté, je pense que je n'ai jamais été autant. Et voilà.
Est-ce que tu te sens plus chef, cuisinière ou restauratrice ?
Je me sens cuisinière, mais chef d'entreprise.
Et quel genre de chef es-tu ?
Je suis... je suis quelqu'un très à l'écoute. C'est-à-dire que... j'ai beaucoup de soucis sur comment... comment vont les personnes avec qui je travaille. À créer une très bonne ambiance. Je suis très soucieuse de ça, d'être dans une bonne atmosphère. Voilà, donc je suis pas mal autoritaire, ouais. mais en restant... je sais ce que je veux, donc à partir de là, il n'y a pas trop... J'ai longtemps hésité, et maintenant que je sais vraiment ce que je veux... J'ai pas de mal à être autoritaire, mais en passant un peu la pommade aussi.
Quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois ?
Je me suis sentie chef. Je pense que c'est assez récent. Ça rebondit avec la question précédente. J'ai beaucoup hésité. J'ai eu beaucoup de mal à m'affirmer, à savoir vraiment ce que je voulais et l'imposer. Et je pense que c'est assez récent où je me suis organisée. Aussi avec le fait de faire de cette activité quelque chose un peu plus... en acceptant des événements et moins un quotidien, j'ai réussi à plus m'organiser. Et là, je me suis sentie un peu plus chef. C'est-à-dire, maintenant, j'ai plus de doutes et plus de... Je prends du temps pour travailler en amont, les événements, etc. Donc, je sais exactement... Je prépare des feuilles de route, etc. Je sais guider les gens. Et de là où j'ai une structure plus fixe, etc. Je me suis sentie plus chef et pas au moment où on m'a appelée chef parce que la hiérarchie voulait qu'on m'appelle chef ou quoi, là ça s'est presque passé sur moi. Mais le jour où je me suis vraiment sentie chef, c'est quand j'ai arrêté d'hésiter.
C'est comment d'être une femme chef ?
Pas facile. Non, ça n'a pas été facile. Et ça l'est de plus en plus.
Non.
Voilà, je pense qu'il y a un truc, c'est avec tout ce qui se passe en ce moment aussi. Ça fait que évoluer. Après, il y a des choses qui ressortent. Moi, ça n'a pas été un. Je qualifierais. Ça n'a pas été facile. Moi, ça a été un grand sujet. J'ai subi beaucoup de machisme, de misogynie, des violences physiques, morales. Donc, j'en parle pas tant dans le détail, mais ça m'a aussi construite comme je suis et donné à un moment la force et le rebond, comme ça m'a un peu anéanti des fois. Donc, je pense que c'était pas tout rose.
Est-ce que vous serrez les coudes entre chef féminine
Il y a un élan là, mais comme je pense dans la société en général, il y a un truc où j'ai des jeunes femmes chefs qui sont venues me voir en me disant j'ai eu des problèmes, j'ai traversé ça, et oui, on parle, et de se parler, ça fait avancer déjà, de l'extérioriser, c'est important.
Et ça a changé les choses de l'intérieur, t'as l'impression ?
Oui, je pense que. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse évolution là, de ma dernière résidence. Les chefs garçons avec lesquels j'ai travaillé n'ont absolument pas la même mentalité que les garçons avec qui j'ai travaillé au début. Donc, ça change.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
L'interview touche à sa fin et on a faim. Est-ce que tu
ça as tombe
une petite
bien, je peux
t'aider
à
nous donner
une petite recette
que tu fais le dimanche ou
le dimanche une recette
un
très
jour.
Simple,
très simple
que je fais et qui est, je pense à un autre ustensile fétiche, c'est le rice cooker. En gros, je fais un pot-au-feu, mais avec les épices du feu. Donc brièvement de la cannelle, enfin un mélange d'épices, donc il y a de l'anis étoilé, du fenouil, des peaux de mandarine, un oignon brûlé, du gingembre que je fais brûler dans un bouillon, de parure de viande, etc., et de légumes. Là j'ai fait cuire une viande, ça peut être du paleron, du bœuf ou pas de viande des fois, enfin voilà. Je fais ce bouillon très concentré en épices. Et après j'y mets tous les légumes du pot-au-feu.
Et tu fais ça dans le rice cooker.
Et la viande, pour qu'elle cuise, je la mets dans le rice cooker et du coup j'obtiens en moins de 2 heures un résultat assez épatant. Donc la viande est hyper fondante, etc. C'est un truc que j'ai trouvé un peu par hasard, par faute de temps. Un jour j'ai mis dans le rice cooker et ça absorbe tout le jus, en fait tout le jus des épices se retrouve concentré dans la viande. À côté j'ai fait les légumes du pot-au-feu. Et après, je vais sur de la coriandre longue, des zestes de citron vert, etc. Et je pense que c'est un bon petit plat, là, par ce grand froid actuel, assez réconfortant. Et des fois, je fais juste les légumes avec le bouillon. Et puis voilà. Mais le petit tuyau du rice cooker pour cuire une viande, comme une cocotte minute, finalement, ça marche pas mal.
Merci Céline.
Bah de rien, et puis on va le faire si tu veux.
Vous pouvez goûter ce qu'elle a dans la poêle chez elle, sa table d'hôte cachée, en la contactant via son site célinefemme.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par San Diego Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poêle sur iTunes ou sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur Instagram. Si vous vous êtes régalé, surtout n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.